On va maintenant parler à une médecin spécialiste de l'obésité infantile. Vous la connaissez sans doute, fait des entrevues dans les médias. C'est sa cause, l'obésité infantile. Il s'agit de Dr. Julie Saint-Pierre, pédiatre. Bonjour, Dr. Saint-Pierre.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, écoutez, avant qu'on parle de vos inquiétudes sur les répercussions de la pandémie sur la santé des jeunes, je veux que vous me donniez une petite mise à jour sur votre clinique qui s'appelle la clinique 180, qui combat l'obésité infantile en intervenant auprès des familles. On sait qu'il y a toujours un problème de financement avec votre clinique. C'en est où ce dossier-là?
Bien, malheureusement, on n'a pas reçu le support escompté du gouvernement du Québec, du ministère de la Santé, tout juste avant les fêtes. Donc, ça a été quand même une situation assez difficile pour toute notre équipe, étant donné l'importance du nombre de familles qui fréquentent nos installations. Donc, j'ai dû prendre une décision qui est une décision de soignante, de médecin, c'est-à-dire de continuer ce combat en attendant qu'il y ait d'autres solutions en tout simplement défrayant les coûts de ma poche.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez payer quoi de votre poche?
Bien, le service aux patients, en fait, parce que je ne peux pas abandonner près de 1000 familles comme ça du jour au lendemain, des jeunes qui ont des médicaments pour l'hypertension, le diabète, le cholestérol qui souffrent d'un point de vue pandémique aussi. Donc, je vais faire de mon mieux pour payer les installations, offrir un service quand même médical à ces jeunes-là en attendant qu'on trouve comment soutenir les professionnels de la santé qu'on défrayait, dans le fond, le coût de ces personnes-là avec la subvention qu'on avait reçue du ministère.
OK. Expliquez-nous, là, c'est quoi votre vision 180, comme vous l'appelez, là, c'est la clinique 180.com. Vous intervenez pas juste auprès de l'enfant, vous intervenez auprès de la famille.
Oui, c'est toute la famille, puis c'est vraiment une intervention éducative, familiale, des fois même avec les grands-parents, là, pas en période de COVID, mais par Zoom, on l'a fait. Donc, c'est vraiment de les accompagner dans des changements d'habitude de vie qui vont traiter la maladie de l'enfant. Donc, des fois, ça peut être la nutritionniste qui va établir un défi avec le jeune. Ça peut être arrêter de boire du jus ou des boissons gazeuses. Et on va revoir le jeune un mois plus tard avec l'infirmière, des fois un kinésiologue, parfois un psychologue aussi qui est nécessaire. Et cet accompagnement-là intensif permet d'obtenir des résultats parfois spectaculaires qui peuvent aller jusqu'à 80 % d'amélioration de la santé de l'enfant et souvent de la famille autour.
OK. On sait que le problème de l'obésité chez les enfants, ça a été décrit comme une sorte d'épidémie, même une pandémie mondiale, un peu invisible, là, parce que c'est pas contagieux, mais les enfants sont de plus en plus, en Occident, là, de plus en plus gros. Qu'est-ce que la pandémie va changer dans cet enjeu-là?
Ben, écoutez bien ça. On avait déjà 340 millions d'enfants de 5 à 19 ans qui souffraient d'embonpoint d'obésité dans le monde juste avant la pandémie. Aux États-Unis, ça vous donne à peu près 13,7 millions d'enfants. Au Québec, l'équivalence, c'est autour de 500 000 enfants qui étaient en situation de surpoids ou d'obésité avant la pandémie. Et nos projections avec nos chercheurs scientifiques cet été, au mois d'août, était qu'on aurait une augmentation de l'obésité infantile ou du surpoids chez les jeunes d'autour de 4,25. Ça, c'était les prédictions en tenant compte de tous les déterminants là, psychosociaux autour des jeunes. Finalement, la semaine passée, on a eu les chiffres du CDC aux États-Unis, 1,5 million d'enfants de plus. Donc, ça fait une augmentation de 11, donc plus du double de ce qu'on prévoyait initialement cet été en raison de toutes les causes, en fait, là, tout ce qu'on cherche à incriminer face à l'isolement que ces jeunes-là ont eu, les écrans, le sommeil, le stress, l'activité physique, la nutrition, bref, toutes ces réponses. Puis là, ben, il y a un super coup de théâtre qui nous est arrivé cette semaine, où est-ce que on des psychiatres puis des professeurs de nutrition subventionnés par le NIH nous ont permis de comprendre que le stress parental avait été déterminant dans tout ça. Stress financier, insécurité alimentaire, banque alimentaire, le télétravail, les pertes de travail, et que malheureusement, face à l'isolement qu'on a eu, le confinement, on s'est mis à nourrir nos enfants avec émotion. On a perdu les routines, on n'avait plus d'heure pour manger.
Je vous interromps, docteur Saint-Pierre. Oui? C'est quoi nourrir nos enfants avec émotion?
Nourrir nos enfants avec émotion, selon les psychiatres spécialisés pour les enfants, puis ces professeurs-là de nutrition, c'est vraiment dire, ben, pauvre petit, on est en pandémie, on est plus permissif, on va se permettre plus de plaisir, plus d'exceptions. Et toutes ces exceptions-là qui ont été, en fait, rapportées par les chercheurs, là, chips, chocolat, bonbons, muffins, barres tendres, les petits poissons, les jus, les beignes, les crèmes glacées, ben c'est devenu des snacks qui revenaient, des collations beaucoup trop souvent dans les maisons. Et on le faisait parce que on essayait de compenser une espèce de culpabilité de parents d'avoir moins de temps pour s'occuper d'eux autres. Donc, c'est intéressant parce que là, on dirait qu'on commence à avoir plein d'autres études qui sortent en même temps, puis là, ben l'Université Baylor en rajoute et nous disent ben on a eu une diète qui était plus pauvre, puis la malbouffe était encore plus présente. Puis quand on compare face à la baisse d'activité physique que nos enfants ont eue, ben finalement la malbouffe et la diète un peu plus pauvre qu'on leur a offert, ben c'est plus contributoire que la baisse d'activité physique.
Ça c'est important, puis je veux que vous élaboriez un peu là-dessus, parce que on a tendance à penser, là, même hors pandémie, que si les enfants souffrent de plus en plus dans le bon point, c'est parce qu'ils bougent moins comme dans le bon vieux temps. Mais ben, je pense que c'est une partie de l'équation, mais il y a aussi le fait que la bouffe a changé aussi.
La bouffe, elle a changé, elle s'est transformée. Puis, écoutez bien ça. Les parents se plaignaient cet automne à la clinique. Ils nous appelaient, ils nous disaient, ça n'a pas de bon sens, les collations des enfants. On n'était peut-être pas parfait dans nos maisons, mais en plus de ça, ben les collations offertes au niveau scolaire pouvaient grimper jusqu'à du 75 à 100 grammes de sucre qu'on ajoutait sur déjà les exceptions qu'on donnait à la maison. Donc, un enfant, là, grosso modo, de 2 à 8 ans, ça doit consommer à peu près 2,5 grammes de sucre ajouté par jour. Et là, on parle
de quantité.
C'est pas beaucoup, c'est vraiment là, c'est la moitié d'un jus de pomme là. Donc c'est sûr que quand on arrive avec un excès de sucre ajouté, hein, puis vous m'avez entendu, je parle pas de calories, je parle de sucre ajouté, ben ce sucre là, il va être transformé en gras. Puis ça prendrait tellement d'heures d'activité physique à un enfant pour être capable de brûler tout ça. Puis là, ben en plus, on a réduit l'activité physique. Donc, c'est sûr qu'on s'en sort pas. On a augmenté les quantités de sucre, puis on a baissé l'activité physique. Par-dessus ça, nos enfants sont plus devant les écrans, c'est bien certain. Puis, on sait que les écrans réduisent la qualité du sommeil. Donc, vous voyez le cercle vicieux. Ils vont se relever le lendemain moins concentrés, plus de fringales. Puis ça, on sait que ça a un lien avec le développement du surpoids et de l'obésité.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que s'attarder aux questions de poids comme ça, c'est de la grossophobie? On sait qu'il y a de plus en plus de militants, disons, de la diversité corporelle, là, qui veulent nous rappeler que être mince, c'est pas un objectif à tout prix. Dès qu'on parle d'obésité, il y a souvent des accusations de grossophobie.
Bien, c'est malheureux parce que d'un point de vue vraiment recherches sur la cellule adipeuse. On sait que la cellule adipeuse, elle a des transformations lorsqu'on vit une situation d'obésité et que ça entraîne des changements qui sont parfois imperceptibles et qui sont aussi impossibles à détecter dans un bilan sanguin là, normal. Donc, il y a une confusion vraiment triste au sein de la population où est-ce qu'on parle d'obésité, on mélange obésité, beauté, diversité corporelle, maladie, tout ça se mélange, alors que moi, mes patients sont tous beaux et belles, mais ils souffrent d'une maladie avec des complications graves. Donc, oui, il y a des corps différents, puis cette diversité-là, moi, je suis 100% d'accord avec ceux qui la défendent, et j'en fais partie, mais il faut garder quand même une ouverture d'esprit, à savoir que pour beaucoup de gens, pour énormément de jeunes, c'est une maladie. Ils en souffrent et ils veulent des soins de santé.
OK, on va s'éloigner du sujet des enfants qui est votre terrain de spécialité. Vous êtes en train de soigner ces jours-ci à cause de la COVID. Des adultes, vous vous intéressez. Ben, en fait, vous avez été affecté là, à soigner les gens au Royal Victoria. Quelle sorte de clientèle on retrouve là-bas?
Écoutez, c'est très varié. C'est de 18 à 99 ans et plus. C'est sûr que moi, comme pédiatre, je peux pas vous cacher que j'avais une certaine angoisse à me retrouver avec des patients de 80 ans et plus. Donc, j'ai fait un choix là personnel en début de réaffectation de tenter de travailler avec des gens qui étaient plus près des 18 ans, donc mais quand même qui étaient dans la cinquantaine ou dans la quarantaine, et ça m'a amené à faire un choix de travailler avec les gens qui souffraient d'itinérance ou par exemple de maladies chroniques comme le VIH ou d'autres conditions, des maladies de foie grave. Donc ça m'a permis d'être avec des gens qui étaient peut-être plus près de ma clientèle malgré tout.
Mais comment vous êtes ramassé à retrouver, à soigner des itinérants, vous qui êtes pédiatre d'habitude?
Ben c'est un SOS, hein? C'est vraiment un SOS qui a été lancé par l'équipe des médecins adultes. Puis moi, personnellement, comme médecin, ben je suis pas capable de dire non. C'est un défaut puis c'est une qualité. Et je me suis sentie interpellée par cette demande d'aide-là urgente. Il manquait énormément de gens pour couvrir les listes de débordement. Donc, vous avez vu les chiffres puis les hospitalisations. Donc, il y a plusieurs unités de débordement qui se construisent dans les hôpitaux de semaine en semaine. Et ça prend des volontaires pour y aller. Donc, comme j'ai pas eu mon financement, ben moi je me suis portée volontaire pour y aller. Et ça a été jusqu'à présent, puis jusqu'au mois de mars, c'est jusqu'à présent une expérience très enrichissante.
Quand on arrive dans un monde qu'on connaît moins bien, des fois on a un regard plus frais. Qu'est-ce qui vous frappe sur ce monde-là?
La solitude, la peur de mourir seule. C'est une angoisse qui est particulièrement indescriptible. Puis tu sais, un de nos rôles qui est très important, c'est de discuter avec les familles, penser est-ce que votre père, votre mère, votre frère, votre sœur a déjà parlé, qu'est-ce qu'il voulait comme soins. C'est des soins qui sont de base très humains, là, qui nous ramènent à l'essentiel. Les gens ont peur de mourir, puis qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent qu'on soit agressif dans nos soins? Est-ce qu'ils veulent qu'on apporte un confort uniquement? Donc, c'est des moments qui sont très très durs à vivre parfois. Puis, je vous donne un exemple. Je le dis souvent, on n'est pas des machines, là. Moi, je suis faite forte, puis ça... C'est pour moi, c'est toujours des défis. J'ai étudié, j'étais bien entourée, j'avais un bon coach qui travaille avec des adultes qui me supervisaient. Mais malgré ça, entre autres, les personnes avec qui j'ai travaillé en situation d'itinérance, ça finit par peser. Tu cherches des solutions, puis tu fais du social, puis pas dans le sens qu'on aimerait avoir. Là, c'est vraiment du social. On supporte les travailleurs sociaux, trouver des ressources, trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être parfois compliqués. Puis finalement, au bout de tout ça, avoir l'impression qu'il y a tellement de choses qui ne marchent pas dans notre système. Puis tu veux pas les renvoyer dans la rue, là. Tu te dis ça n'a pas de bon sens, ils sont malades. Et parfois, malheureusement, ben ça déborde tellement que c'est ça qui arrive, là, tristement. Donc, après mon dernier chiffre cette semaine, je suis arrivée au coin d'une rue face à quelqu'un en situation d'itinérance, puis j'ai vraiment senti une chaleur monter, là. On dirait que ma semaine m'était rentrée dedans. J'ai donné des sous, puis je me suis mis à brailler en m'en allant chez nous. Tu sais, ça vient nous chercher. On est dans un système qui est à bout de souffle en ce moment, puis c'est tous les personnels à tous les niveaux qui en ce moment trouvent ça difficile.
Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir, Dr. Saint-Pierre.
Ça fait plaisir.
Salut, c'est Dr. Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre. C'est son occupation normale, médecin pédiatre auprès des enfants, évidemment. Et là, ben, elle a été redéployée auprès des clientèles qu'on dit vulnérables et qui sont concentrées, là, ces soins-là, à l'ancien hôpital Royal Victoria.